France Culture.
France Culture. Carnet de santé. Marina Carrère d'Ancos.
Le frisson indicible qui vous prend quand vous le voyez devant vous, déshabillé, mis à nu, palpitant à la façon d'un métronome, quand vous devinez sous cette pulsation rouge, cramoisie et ininterrompue la matière même de la vie. L'objet de ce frisson est niché au centre de notre thorax, nos poumons. Il mesure 12 cm de long, pèse 300 grammes et bat 4800 fois toutes les heures, soit 3 milliards de fois dans une vie, pompant 8000 litres de sang tous les jours de la vie et ce, sans jamais se reposer. Cet objet, c'est un organe, le cœur, et l'homme qui décrit ce frisson indicible qui le prend à la vision d'un cœur, qui en a opéré plus de 20 000 au cours de sa vie, qui dit être resté du premier jusqu'au dernier émerveillé par ce qu'il avait entre les mains, c'est le professeur Jean-Noël Fabiani-Salmon, grand chirurgien et non moins grand historien. Et c'est notre invité aujourd'hui avec qui l'on va parler de l'histoire de cet organe, de ses représentations, de ses fonctions, des moyens de le réparer et de l'entretenir, mais aussi de sa propre histoire avec son cœur. Jean-Noël Fabiani-Salmon, bonjour.
Bonjour Madame Carrère-Drancos.
C'était beau ces mots que j'ai prononcés, mais ils sont de vous. Mais c'était... Je vous ai vu assez ébahi par cette...
Oui. C'était très bien.
Vous avez dirigé pendant plus de 20 ans le service de chirurgie cardiovasculaire de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Vous enseignez l'histoire de la médecine et des maladies à l'université Paris-Cité. Et vous êtes l'auteur de nombreux livres, y compris en BD, pour faire partager donc votre double passion pour la médecine et son histoire. On va y revenir. Mais on va d'abord parler de vous, parce qu'on vous découvre un peu plus, et sous un jour nouveau, dans votre dernier livre, qui est absolument passionnant, « Votre cœur, cet inconnu », qui est paru chez Albin Michel. Alors on le disait, je le découvre votre histoire avec votre cœur. On va y revenir tout de suite, mais d'abord, votre histoire avec le cœur. Votre passion est née, vous le dites, dès votre première rencontre avec un cœur humain vivant, sorti d'une poitrine. Vous aviez 21 ans. Pouvez-nous raconter ça ?
Oui, j'étais jeune externe dans le service du grand professeur Dubost, à l'époque le premier à faire de la chirurgie cardiaque, pour ainsi dire, en France. Et j'étais autorisé à aller en salle d'opération et de voir comment ça se passait. Et j'ai vu à ce moment-là les chirurgiens qui, au début de l'opération, venaient d'ouvrir la poitrine, ouvrir le péricarde, et bien pour voir comment était un cœur, ils prenaient le cœur dans leurs mains, le cœur battant bien entendu, et ils le soulevaient pour voir ce qui se passait à la face postérieure du cœur. Et alors le cœur, ça s'agite dans ces cas-là, il palpite, il devient... Il n'aime pas du tout être en position verticale, il le relâchait, ça s'appelle luxer le cœur battant. C'est une manœuvre que font tous les chirurgiens, mais qui, moi, m'avait profondément rendu impressionné. J'étais impressionné.
Alors votre carrière est née là, parce que vous dites que vous vouliez sauver des vies, mais dans ce cas-là, vous auriez pu devenir cancérologue ou neurochirurgien ou d'autres professions.
Sans aucun doute. Mais le hasard de la vie fait que nous sommes en 1968, par le hasard incroyable de la révolution des étudiants, je me trouve à l'hôpital Brousset, où est le premier service de chirurgie cardiaque de Monsieur Dubost. Et je vois, en l'espace de quelques mois, la première plastie de la valve mitrale, la réparation de la valve mitrale, le premier pontage des coronaires, et enfin, une des premières transplantations cardiaques qu'on fait en France. Alors, c'est vrai que je me suis aperçu que c'était là où ça bougeait, et ça m'a évidemment attiré.
Et vous dites que c'est une chirurgie très particulière, et vous le dites, toutes les personnes que j'ai opérées étaient en sursis. Ça, c'est unique.
C'est vrai. Par définition, quand on opère quelqu'un du cœur, qu'on lui ouvre la poitrine, qu'on lui arrête le cœur, c'est parce qu'il y a un danger, qui est un danger imminent. Alors, très difficile de donner le délai exact, mais il y a quelque chose qui ne va pas, soit au niveau des valves du cœur, soit au niveau des artères du cœur, soit au niveau du muscle cardiaque lui-même. Il faut faire quelque chose. Donc, tous les malades, c'est vrai, sont en sursis.
Alors, le résultat, c'est en tout cas une incroyable carrière. 24 ans à la tête d'un grand service de chirurgie, un service que vous quittez pour le retrouver en tant que patient. Alors, tout a commencé en fait par une banale échographie cardiaque. Faites non pas pour des troubles cardiaques, mais parce que vous deviez être opéré d'une cataracte et qu'on a demandé, par précaution, une écho cardiaque. Et alors ?
L'anesthésiste m'a dit, oh, écoute-toi quand même, il faut que je te fasse sur l'écho, je le fais jamais faire parce que c'est une anesthésie locale, mais toi je vais te faire demander une échographie. Je vais donc, dans mon propre service, voir le docteur Emmanuel Florence, qui est la cardiologue qui s'occupe des malades de mon service, et elle commence à me faire l'examen. Elle me dit, oh, votre cœur c'est formidable et tout, vous faites toujours du sport, vous faites toujours... Alors j'ai dit, oui, tout va bien, et elle monte la sonde à ce moment-là, elle met le son, et elle me dit, oula, là, mais l'aorte, ça va pas du tout, elle est beaucoup trop grosse. Et en effet, elle me découvre un anévrisme de l'aorte ascendante.
Alors, vous nous expliquez ce que c'est.
Alors c'est une aorte qui gonfle.
Donc l'aorte, c'est vraiment la plus grosse artère du cœur.
C'est,
hein.
C'est l'artère qui sort du cœur, quoi, qui va se distribuer à tous les organes du corps. Et elle mesure 6 cm alors qu'elle devrait en mesurer 2,5. Et manifestement, c'est un danger parce que le risque, c'est la rupture. Ah, et la rupture de l'aorte, vous imaginez, c'est la mort. Remarquez, ça dure pas longtemps, ça ne dure que quelques secondes. Et vous êtes mort. C'est comme ça que... Alors c'était pas au niveau du cœur, mais c'était au niveau du ventre. C'est le général de Gaulle est mort comme ça.
Oui, j'ai découvert, je ne savais pas.
Oui, Albert Einstein aussi est mort d'un anévrisme de l'aorte. Donc, c'est une maladie assez banale, mais elle est très, très, très longtemps latente. Et si je n'avais pas eu cet examen, en effet, et le discernement du docteur Florence, qui a remonté sa sonde alors qu'elle aurait pu rester sur le cœur, on n'aurait pas fait le diagnostic, et je ne pourrais pas vous parler aujourd'hui.
Et mais j'en serais très malheureuse. c'est quoi l'impression quand on ne parle plus du cœur des autres, mais qu'on vous parle de votre cœur à vous? Vous le disiez souvent, vos malades avaient peur quand même quand on leur annonçait une maladie cardiaque. Vous, vous avez réagi comment ?
Ben, j'ai réagi en professionnel, en connaissant parfaitement tous les risques, en connaissant les risques de la maladie, mm-hmm. mais les risques de l'opération aussi. Alors, je vous dis pas que j'y vais en sifflotant, mais je réagis en prenant des décisions qui sont les décisions que j'aurais prises vis-à-vis d'un autre qui aurait été le malade. Donc, j'ai dit, ben, écoutez, ben, très bien, il faut s'opérer, il faut opérer vite. Et à ce moment-là, j'ai vu le professeur Achou et le docteur Léonora Dupuis-Montbrun qui m'ont opéré très rapidement pour éviter tout problème.
Alors, c'est vrai que vous aviez décidé de vous faire opérer dans votre service. Il n'y a pas eu un instant de doute où vous vous êtes dit « je vais aller ailleurs, je les connais trop, je... »
Pas un instant de doute. D'abord parce que j'avais confiance dans le service lui-même, dans les chirurgiens et les cardiologues qui m'entouraient. Et puis, j'aurais trouvé ça une honte d'aller me faire opérer ailleurs alors que j'avais passé ma vie à opérer à l'hôpital Pompidou.
Quand vous opériez des amis ou des confrères, parce que vous l'avez fait, vous aviez une main différente ou pas ?
Non, au départ, entourer la personne était plus difficile, mais j'avais la chance, à partir du moment où je me trouvais en salle d'opération, d'oublier tout. C'est-à-dire d'oublier que c'était mon vieux copain, que c'était ce monsieur très connu, et de me concentrer uniquement sur le problème que j'avais à résoudre, qui était un problème technique.
Alors vous racontez, c'était lundi 4 octobre 2021, l'opération, vous entrez au bloc, donc dans votre bloc, et vous dites, puisque vous êtes allongé, que vous le voyez à l'envers pour la première fois.
Oui.
C'est une impression étonnante.
Ben oui, c'est une impression étonnante, parce qu'on arrive sur le brancard, et on voit le plafond, on voit le sialytique, on voit les visages à l'envers un petit peu, on voit les scopes de façon différente. Alors, ce qu'il faut bien dire, qui est formidable, bravo les anesthésistes, hein, ils vous donnent des médicaments avant pour vous, entre guillemets, préparer, vous décontracter, et on nage, on flotte. Certes, je vois tout à l'envers, mais comme si je suis sur un petit nuage.
Tout s'est bien passé ?
Tout s'est bien passé.
Aujourd'hui, vous allez bien ?
Aujourd'hui, je vais très bien.
Ça se voit. Vous avez donc finalement été sauvé par votre chirurgie de la cataracte et par cette cardiologue. Vous voulez faire passer également le message que beaucoup d'accidents cardiaques ne préviennent pas et que donc à partir d'un certain âge, il faut se faire dépister et tout faire pour éviter ces affections. On en parle tout de suite.
France Culture, carnet de santé. Marina Carrère d'Encausse.
Carnet de santé consacré donc aujourd'hui à notre cœur, cet organe fascinant qui nous permet de vivre mais qui peut aussi souffrir. De quoi ? Et est-ce qu'on peut le protéger et l'entretenir ? On en parle avec le professeur Jean-Noël Fabiani-Salmon, chirurgien, historien. Déjà, c'est vrai que quand on parle cœur, les gens, le grand public, pensent en général infarctus du myocarde, angine de poitrine. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi peut souffrir globalement notre cœur ? Qu'est-ce qui peut lui arriver à notre cœur ?
Il peut arriver évidemment énormément de choses. En premier, d'être mal formé dès le départ. Hein, je ne sais pas si on en parlera, mais enfin tous ces petits enfants qui naissent comme des petits schtroumpfs, puisqu'ils sont bleus et que leur sang veineux passe du côté opposé, c'est-à-dire du côté rouge, et ils sont tout bleus, et ils peuvent pas grandir correctement, ils sont coincés dans la cour, ils sont en général accroupis pour mieux s'oxygéner, et pendant très longtemps ils étaient condamnés à mort, ils pouvaient pas grandir, ils étaient condamnés à mort. Maintenant, évidemment, il y a eu des progrès formidables, historiques d'abord, et puis ensuite des progrès techniques qui ont permis d'opérer ces enfants, pour ainsi dire, dès la naissance, et de corriger.
Oui, parce qu'on repère cette malformation.
On repère grâce à l'échographie.
Pendant la grossesse.
Pendant la grossesse. Et dès la naissance, on est opéré, on est obligé, on peut réparer ces malformations du cœur. Donc ça, le cœur peut être mal formé.
Oui.
Ensuite, il peut y avoir des maladies qui vont attaquer le cœur. La plus grande maladie qui attaque le cœur, eh bien, c'est l'angine. L'angine à streptocoque. C'est des millions de gens sur Terre. Il faut se rendre compte d'enfants, hein, essentiellement. Pourquoi? Mais c'est une injustice incroyable. L'organisme se défend contre le streptocoque. Oui, mais malheureusement, les antigènes qu'il sécrète, non seulement attaquent le streptocoque, mais attaquent aussi le cœur. Parce qu'ils sont tellement proches l'un de l'autre qu'ils détruisent les valves. Et c'est ce qu'on appelle le rhumatisme articulaire aigu.
Qu'on voit toujours dans certains pays aujourd'hui?
Mais bien entendu, la Chine, l'Amérique du Sud, l'Afrique est pleine de rhumatisme articulaire aigu. Ça reste la première maladie valvulaire au monde. Et il faut opérer les valves pour essayer de faire grandir ces enfants. Et puis alors, bien sûr, la grande maladie qui nous touche, nous, un peu, les pays dits « développés », entre guillemets, c'est la maladie des coronaires. Et ça a été la vedette des 50 dernières années. Parce que ces artères qui peuvent se rétrécir, se calcifier, eh bien, elles peuvent entraîner un infarctus. L'angoisse, bien sûr, de tout le monde. Et on peut, depuis déjà un certain temps, eh bien, prévenir tout ça, soit en faisant des pontages, soit maintenant, plus souvent, en faisant des angioplasties, c'est-à-dire des petits ballons et des stents.
Ça, on va y venir. Il y a aussi on peut avoir des troubles du rythme.
Alors.
Et ça, c'est devenu carrément une spécialité à part entière.
L'arythmologie est devenue une spécialité à part entière, tellement le nombre de troubles du rythme est important, tellement il y a de variations. Et puis, quand même, maintenant, combien on a de traitements possibles, grâce au laser en particulier, qui permet d'aller détruire éventuellement des faisceaux aberrants ou des zones qui ne se contractent pas correctement.
Et stade ultime, l'insuffisance cardiaque, le muscle est touché.
L'insuffisance cardiaque, bien sûr, pendant très longtemps, ça a été l'ultime résultat de toutes ces maladies, ou bien même de certaines maladies qui sont génétiques, qui font qu'on appelle des cardiomyopathies, le cœur se dilate tout seul. Et parfois, chez des gens très jeunes, la seule façon, c'est de le remplacer. Alors,
vous pouvez vous raconter le cas d'une jeune femme comme ça.
Oui, ce qui m'a beaucoup marqué, évidemment. Oui. Une jeune femme de 22 ans qui voulait faire du sport au club méditerranéen, vous voyez. Et on lui diagnostique une cardiomyopathie qui se dilate. C'est épouvantable. On lui dit, la seule solution, mademoiselle, c'est de vous changer le cœur. Et tout s'effondre. Donc, surtout à l'époque où se passe cette histoire. Donc, changer le cœur. Et ça, on peut depuis 1967, décembre 67, où Chris Barnard, le premier au monde, a fait une transplantation cardiaque. Eh bien, on sait remplacer le cœur. Malheureusement, c'est encore limité dans le nombre.
On va y venir. N'anticipez pas, s'il vous plaît.
Je n'anticipe pas.
Les malformations, vous l'avez dit, hein, bien sûr, on ne peut pas les éviter, mais il y a des affections évitables, notamment, effectivement, les maladies des coronaires. Qu'est-ce qui abîme ces coronaires? Comment on peut les éviter?
Alors, ce qui abîme les coronaires, c'est quand même... Alors, il ne faut jamais oublier un élément fondamental, c'est l'hérédité. Il y a des gens chez qui on a fait des maladies des coronaires, et d'autres qui n'en font pas. Mais on peut favoriser cette maladie des coronaires grâce à ce qu'on appelle des facteurs de risque. Et ces facteurs de risque, on les connaît bien, parce que depuis 1948, une petite ville aux États-Unis qui s'appelle Framingham est surveillée et depuis 70 ans pour essayer de comprendre quels sont les facteurs qui sont responsables de ça. Alors, on les connaît parfaitement maintenant. Il y a le tabac, évidemment, il y a la sédentarité, évidemment, il y a l'hypertension, évidemment, et puis d'autres, on les connaît. Et là, on s'est aperçu d'une chose, c'est que non seulement chacun était dangereux, mais que leur association se multipliaient en quelque sorte. Et donc, quand on associe plusieurs de ces facteurs de risque, on a de grands risques de faire une maladie des coronaires.
Alors, il faut effectivement rechercher ces facteurs de risque pour pouvoir les traiter régulièrement à partir de 40 ans, qu'on soit un homme ou une femme. Et ça, c'est quand même un peu une nouveauté qu'on mesure à quel point le risque est important chez la femme.
Évidemment, parce que l'étude de Framingham ne s'est pas intéressée aux femmes, pour des tas de raisons sur lesquelles on ne va pas entrer là maintenant, mais on s'est aperçu, évidemment, que les femmes, par exemple, à partir de la ménopause, avaient un risque majeur de faire une maladie des coronaires. Elles ont 6 fois plus de risque de mourir d'un infarctus du myocarde que de faire un cancer du sein. Faut que ce soit bien clair dans la tête de tout le monde.
On pense toujours que le cancer du sein, c'est la première cause de mort chez les femmes, mais non.
Ben non, pas du tout. C'est l'infarctus du myocarde avec ses facteurs de risque qui, pour des raisons hormonales en particulier, sont exacerbés après l'arrêt des œstrogènes et Et les femmes vont alors à ce moment-là avoir des grands risques. Et en plus, ce qui est terrible, c'est qu'elles ont des signes de cette maladie qui ne sont pas typiques. Oui. Autant les hommes, c'est une grande douleur dans la poitrine, tout le monde connaît, même les étudiants en médecine connaissent. Là, la femme, c'est plus compliqué, c'est souvent au niveau de l'estomac, c'est dans le dos, c'est des troubles du rythme. Donc c'est moins net et parfois... Surtout qu'à l'époque où on n'attirait pas l'attention dessus, eh bien, on passe à côté.
Et puis, il faut bien dire aussi que les femmes s'occupent d'abord de leurs enfants et de leurs maris avant d'appeler pour elles le 15.
On est bien d'accord.
Qu'il faudrait que ça change. Si on trouve ces facteurs de risque, bien sûr, on peut agir. Donc, l'importance de ce dépistage, parce que c'est vrai qu'en 50 ans, ces 50 dernières années, la cardiologie médicale et chirurgicale a été bouleversée par les découvertes. On commence par les médicaments. Tous ces facteurs de risque, l'excès de cholestérol, l'hypertension, le diabète, tout ça, on sait le traiter.
Absolument, on sait le traiter, en sachant que c'est pas toujours facile de faire adhérer au traitement. Par exemple, l'hypertension artérielle, c'est une maladie terrible, parce que les gens qui ont une hypertension artérielle, ils se sentent très bien, ils vivent à 100 à l'heure, et vous allez leur donner des médicaments qu'il faut prendre tous les jours, parce qu'on ne guérit pas l'hypertension artérielle, on ne peut que la traiter, et vous leur donnez des médicaments, ils ont l'impression de se traîner. Alors, essayez
ils
de
ne
faire...
sentent rien, ils ne sentent
ils aucun
symptôme.
Ils se sentent fatigués. Donc, c'est difficile de faire adhérer les patients à un traitement comme celui, par exemple, de l'hypertension artérielle.
Alors, il y a bien d'autres médicaments qui ont fait leur apparition, notamment les antiarythmiques, on a parlé des troubles du rythme, des anticoagulants qui peuvent empêcher de faire un caillot de se former. On reste sur l'accident cardiaque, l'infarctus. Quand il arrive aussi, on sait agir aujourd'hui. Il y a, vous le disiez effectivement, et c'est apparu il n'y a pas si longtemps que ça finalement, la coronarographie, les sténoses, les pontages. Expliquez-nous ça.
Alors, ce qui est formidable, ce qui est formidable, c'est qu'on est capable maintenant, à partir du moment où se déclenche un infarctus, eh bien si on va assez vite... Je suis content parce que c'était ma thèse de doctorat en médecine. Si on va assez vite, on va pouvoir prévenir l'infarctus du myocarde. On va donc prendre le patient, l'amener à un service spécialisé, lui faire ce qu'on appelle une coronarographie, c'est-à-dire qu'on va voir où est le problème sur la coronaire, et là, mettre en place un petit ballonnet pour dilater la zone qui est rétrécie, et éventuellement mettre un stent pour maintenir ouverte cette artère. Et si on agit assez vite, c'est-à-dire il faut aller vite quand même, c'est une heure et demie, hein, à peu près, on va empêcher l'infarctus du myocarde. Alors, il faut mieux habiter dans le 15e arrondissement que dans un petit village de Corse, quand même. Hein.
Oui, et il vaut mieux ne pas emmener le patient dans sa voiture, mais vraiment appeler le 15.
Ah, vraiment, appeler le 15.
Mais quand j'ai commencé mon externat en médecine, j'ai assisté, ça devait être un peu les premières coronarographies. Il y avait quelques patients à l'époque qui mouraient quand même pendant les coronarographies. On mesure alors à quel point c'est un geste qui est banalisé aujourd'hui.
Oui.
C'est impressionnant.
Oui. Vous savez, très souvent, tous les actes médicaux nouveaux, les premiers qui les subissent, malheureusement, ils font souvent les frais de risques supplémentaires. Et puis ça devient la banalité.
Et justement, est-ce qu'il n'y a pas un petit revers à cette médaille? Parce que on banalise presque aujourd'hui l'accident cardiaque. En fait, on souffre, on a cette douleur, on appelle le 15, on est pris en charge. Quelques jours plus tard, on sort réparé. Et du coup, les patients, parfois, ne prennent pas, justement, vous le disiez, leur traitement contre l'hypertension ou autre chose, parce que, finalement, ça fait beaucoup moins peur qu'avant.
Je ne partagerai pas complètement cet avis. Ça fait toujours très, très peur, l'infarctus du myocarde. Et pour ceux qui ont connu une douleur d'infarctus du myocarde, vous savez, ils ne veulent pas recommencer. Hein. C'est une douleur épouvantable. On a l'impression que la poitrine est broyée. La douleur va vers la mâchoire, elle va vers le bras. Vraiment, c'est une sensation. On a l'impression de mourir. Donc, vraiment, ça reste, à mon sens, ça reste quand même un accident qui fait peur. Qui fait peur.
Le stade ultime de l'atteinte cardiaque, on l'a dit, c'est l'insuffisance cardiaque et on en parle tout de suite. Ces 50 dernières années, notre cœur n'a cessé de se révéler, on le connaît de mieux en mieux, on ne cesse d'améliorer les possibilités de le traiter par des médicaments, des gestes chirurgicaux. On va partir d'encore plus loin pour comprendre cette révolution avec le professeur Jean-Noël Fabiani-Salmon, chirurgien cardiovasculaire, historien de la médecine et des maladies. C'est une émission préparée par Anne-Claire Bazin, réalisée par Thomas Jost, avec à la technique Alexandre Dang et à la vidéo Edouard Rubinstein. Vous écrivez dans votre livre « Depuis la nuit des temps, le cœur fascine les hommes. Depuis la nuit des temps, il est apparenté à la vie. Pour les hommes de l'Antiquité, quelle est la différence entre un vivant et un mort, c'est bien simple, le vivant est chaud tandis que le mort est froid. Ça veut dire quoi? Que le cœur était une chaudière?
Le cœur est une chaudière, et pour Aristote, le cœur est une chaudière. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai, réfléchissez un peu, au-dessus, la nature a mis deux soufflets pour entretenir le feu de la chaudière. Donc, le cœur est une chaudière. Alors après, tout cela, on comprend tout ce qui se passe. Il n'y a pas de circulation sanguine, bien évidemment. Vous mangez, ça passe dans votre estomac, puis ça passe dans votre foie. Là, il se produit une cuisson, une coction. Et là, ces aliments, ils deviennent du sang. Mais ils vont pas dans les artères, ni au départ dans le cœur. Ils vont dans les veines. Et dans les veines, eh ben, ils vont dans tout le corps. Ce sont les veines qui sont le réservoir du sang. Et où vont-ils? Ben, ils vont vers les extrémités, vers les mains, vers les pieds, où ils s'échappent en transpiration. Donc c'est comme ça qu'on conçoit la circulation. Et il a fallu un millénaire pour que l'on comprenne la vraie circulation du sang. Et un millénaire, je dis souvent, un millénaire pour comprendre, il a fallu un siècle pour décrire, le 19e, et il a fallu 50 ans pour traiter.
Ce qui est incroyable. Avant de revenir justement à cette circulation à William Harvey, le cœur était vraiment, effectivement, avait une position très particulière dans l'esprit, puisque les anciens Égyptiens le mettaient sur un piédestal, absolument, notamment pour l'embaumement. C'était l'organe à part.
Absolument, tout à fait à part. C'était l'organe, d'ailleurs, quand on arrivait, quand Anubis vous recevait, il était pesé, et c'était votre cœur qui donnait un petit peu la valeur de votre vie et de votre corps, donc.
Et dans l'embaumement, on n'enlevait pas le cœur.
Non, on n'enlève pas le cœur, on enlève le cerveau.
C'est ça.
Hein, mais on n'enlève pas le cœur. Et si jamais par malheur il était enlevé, il faut le remplacer par un petit scarabée qui va remplacer votre cœur. Oui, absolument.
Donc, hypothèse scientifique qui évolue, la circulation du sang, il fallait la comprendre. Et c'est vrai que même si ce n'est pas le premier, on doit quand même beaucoup à William Harvey qui a publié son livre en 1628.
Absolument. Un livre remarquable, De motu cordis et sanguinis in animalibus, c'est un formidable livre, très clair, c'est un esprit très très brillant, Harvey. Il est scientifique. C'est le premier physiologiste, parce que il va utiliser des pauvres petites grenouilles, mais il va leur faire un certain nombre d'expériences qui montrent la circulation, qui démontrent la circulation. Simplement, ce qu'ils ne voient pas, c'est ce qui se passe entre les plus petites artères, les artérioles, et les plus petites veines, les vénules. Et alors, il appelle ça les porosités des tissus, en disant quelqu'un va venir et va voir ce que je n'ai pas pu voir. Et en effet, quelques années plus tard, eh bien, c'est un drapier hollandais qui va inventer le microscope en quelque sorte et qui va voir le premier les capillaires et le globule rouge qui passe dans les capillaires.
Mais il a même fait une expérience sur ses collègues. Il s'est pas contenté des grenouilles.
Et absolument. et à Padoue, ce qu'il a fait, ben non, c'était très simple parce que il y avait quelque chose qui allait pas. Son patron, Fabricius d'Aquapanante, à Padoue. Eh bien, il avait découvert les valvules dans les veines. Mais les valvules, elles ramenaient le sang vers le cœur. Il disait, non, elles sont pas là, parce qu'il est galéniste. Elles sont pas là pour ramener le sang vers le cœur, pas du tout. En fait, elles sont faites pour ralentir le sang qui va s'échapper vers pas en transpiration dans les mains. Et Harvey, là, il est très bien élevé, hein. Il ne critique pas son patron, il est toujours... Mais il prend ses copains, il leur met des garrots, et puis il s'aperçoit bien que le garrot, quand on le met à un certain endroit, bah, la partie qui est la plus distale, elle se met à gonfler, les veines se mettent à gonfler. Quand on enlève le garrot, elle se vide. Et au contraire, bien entendu, c'est le contraire de ce qui aurait dû se passer si on avait cru Galien. Donc, il utilise ses copains. Et puis après, il va faire des expérimentations où il veut utiliser carrément sa famille pour faire des expérimentations, pas d'expérimentations, là en l'occurrence des autopsies. Il va faire des autopsies sur des membres de sa famille.
Alors depuis, évidemment, des progrès incroyables ont permis d'accéder à ce cœur pour remplacer des éléments défaillants comme les valves ou pour réparer les vaisseaux. Mais pour ça, il a fallu un geste incroyable parce qu'il faut arrêter le cœur, ce qui est quand même inimaginable comme idée. Et c'est la circulation extracorporelle qui a été découverte en 1953.
Ouais. Après 20 ans de travail, hein, de la part du couple de monsieur et madame Gibbon, qui ont travaillé sur le grand problème, c'était pas tellement la pompe, c'était le poumon, c'est-à-dire un oxygénateur. Il fallait trouver un oxygénateur en sachant qu'à l'époque, on n'a pas, ce qui pour nous est une évidence, ce médicament qui s'appelle l'héparine, qui est un anticoagulant extrêmement puissant d'abord et réversible. Donc ils n'ont pas ça, il faut trouver un système pour oxygéner le sang. Et donc ils réussissent à remplacer et le cœur et le poumon, donc faire un cœur-poumon artificiel, et commencer à faire des opérations. Alors au début, la machine est très compliquée, la machine de Gibbon est très compliquée, elle tombe sur un génie de la chirurgie qui s'appelle Kirklin, à la Mayo Clinic, qui va prendre cette machine et qui va vraiment faire commencer les grandes opérations.
Et puis on a appris aussi un autre geste impressionnant, c'était à ne pas forcément ouvrir le thorax pour accéder au cœur, mais d'arriver au cœur par les vaisseaux.
Alors, ça, c'est un beaucoup plus récent, évidemment, oui. Où on prend, par exemple, on pique une artère fémorale, on monte ce qu'on appelle un cathéter, c'est-à-dire finalement une petite ficelle hein, qui remonte à l'intérieur du cœur, soit dans les cavités du cœur, soit dans, même dans les artères du cœur, pour aller faire des gestes qui sont maintenant bien, bien réglés. Mais tout ceci a été fait, essentiellement, il y a un grand nom, c'est Monsieur Andreas Grunzig, qui est un Allemand qui vivait en Suisse et qui a vraiment été le grand pionnier de cette technique de l'angioplastie.
Et puis revenons à cette greffe cardiaque que vous évoquiez, qui est parfois la seule possibilité en cas d'insuffisance cardiaque. On sait très bien faire aujourd'hui, mais on manque de greffons. Et puis il y a certains patients au-delà de 60 ans à qui on ne fait pas de greffe cardiaque. Donc on a développé des cœurs artificiels, très lourds au début, pas implantables, ça a évolué. On en est où aujourd'hui? C'est quoi aujourd'hui un cœur artificiel?
Alors c'est une très bonne question. Pendant très longtemps, on a mis au point des cœurs artificiels pour attendre la possibilité d'une transplantation. On n'avait pas de greffon, on dit bah il y en a bien un qui va arriver. Donc en attendant, on va mettre un cœur artificiel qui parfois n'était même pas à l'intérieur du corps, mais qui avait des ventricules. Le malade les gardait sur le ventre hein, en attendant que relié à son cœur, bien sûr, mais en attendant d'avoir un greffon. Ça c'est ce qu'on appelle le bridge to transplant, c'est-à-dire le pont en attendant la transplantation. Et puis un certain nombre de chirurgiens et d'ingénieurs se sont dit oui mais si on était capable de faire un cœur définitif qui remplace définitivement le cœur. Alors, l'exemple que je vais vous citer, bien entendu, c'est plaidons pour notre chapelle.
Bien sûr.
C'est le Carmat qui a été mis au point par Alain Carpentier. Là encore, 20 ans de travail, l'aide de monsieur de Matra. Hein, Carmat, c'est Carpentier-Matra. Oui. Hein, où il met au point un cœur qui a un avantage, c'est qu'il est complètement tapissé à l'intérieur de substances qui empêchent les caillots. Ça, c'est la grande idée d'Alain Carpentier, qui empêche les caillots avec des valves qui sont des valves biologiques. Et donc, pour mettre un cœur définitif à l'intérieur du corps.
Complètement implantable.
Complètement implantable. Avec quand même un problème, pour le moment, qui persiste, qui est celui de la batterie.
Il faut bien l'alimenter, ce cœur.
Bah oui, il faut bien l'alimenter. Et la batterie, pour l'instant, elle est extérieure. Parce qu'on ne peut pas la mettre à l'intérieur pour des tas de raisons techniques, pour le moment. Mais je suis convaincu, personnellement, vu les progrès qui se sont passés, qu'on va être capable, dans très peu de temps, d'avoir des cœurs complètement implantables, ce qui vont précéder les foies complètement implantables, les reins complètement implantables, hein, soyons clairs. C'est l'homme artificiel, c'est le 21e siècle, c'est ce qu'on va connaître pendant le 21e siècle.
Vous pensez qu'un jour, effectivement, on se passera de greffons, humains?
C'est difficile de vous répondre à cette question, parce que, évidemment, actuellement, la meilleure solution, soyons clairs, hein, c'est la transplantation cardiaque. Hein. Est-ce que demain, les organes artificiels seront suffisamment sophistiqués pour complètement remplacer? Je peux pas encore vous répondre. Intuitivement, j'aurais tendance à vous dire que oui.
Est-ce que vous pensez qu'on peut encore découvrir, avancer dans la connaissance qu'on a du cœur?
Bah, ça, j'en suis convaincu. Vous savez, j'ai toujours retenu cette phrase d'un des très grands chirurgiens du début du XXe siècle qui a dit « Je plains mes successeurs car ils seront plus capables de faire aucun progrès ». Il parlait, ce brave monsieur, avant la chirurgie cardiaque, il parlait aussi avant la neurochirurgie, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, soyons clairs, hein, non, il ne faut pas dire ça. Obligatoirement, il va y avoir des progrès, ne serait-ce que toute une connaissance génétique qu'on n'a pas encore de cœur et des artères, qui vont obligatoirement modifier complètement notre vision des choses.
Vous plaidez aussi pour que plus de jeunes se lancent vers cette médecine?
Bah, écoutez, c'est vrai que moi j'ai trouvé ça extraordinaire, j'ai eu de la chance. Hein.
J'ai vécu
une période incroyable, mais je pense que la période qui va suivre va être aussi incroyable, et je pense que si on veut donner un sens à sa vie, eh bien, faire de la chirurgie du cœur, c'est un bon moyen.
Et il n'y a pas assez de candidats?
Il y en a, mais pas suffisamment.
Parce que ça demande beaucoup d'investissement dans sa vie, faut bien
absolument
dire.
Absolument, il faut être clair, oui. Là, c'est sûr.
Et aujourd'hui, c'est vrai que les médecins n'ont pas forcément toujours envie de consacrer leur vie, d'être appelés la nuit parce qu'il y a une grève cardiaque.
Ah, c'est ça, la
chirurgie cardiaque.
Ça, c'est sûr.
Merci infiniment. C'était passionnant. Je rappelle votre livre tout aussi passionnant, Votre cœur, cet inconnu, c'est paru chez Albin Michel.